Le roi Charles.
Il avait fallu près d'un quart d'heure pour traverser la ville depuis les portes jusqu'au palais de la cité. Les larmes vinrent aux yeux de la reine Isabelle lorsqu'elle mit pied à terre, dans la cour de cette demeure qu'elle avait vue édifiée par son père et qui déjà avait reçu la légère patine du temps. Les portes s'ouvrirent en haut du grand escalier, et Isabelle ne put s'empêcher d'attendre le visage imposant, glacial, souverain du roi Philippe le Bel. Que de fois avait-elle ainsi contemplé son père au sommet des marches, s'apprêtant à descendre vers sa ville. Le jeune homme qui apparut en cotte courte, la jambe bien prise dans ses chausses blanches et suivi de ses chambellans, ressemblait assez par la taille et les traits au grand monarque disparu. Mais aucune force, aucune majesté n'émanait de sa personne. Il n'était qu'une pâle copie, un moulage de plâtre pris sur un gisant. Et néanmoins, parce que l'ombre du roi de fer demeurait présente derrière ce personnage sans âme, et parce que la royauté de France s'incarnait en lui, Isabelle voulut par trois ou quatre fois s'agenouiller, et chaque fois son frère la retint par la main en disant « Bienvenue, ma douceur, bienvenue !» L'ayant forcée à se relever, et toujours lui tenant la main, il la conduisit jusqu'au cabinet assez vaste où il se tenait habituellement, s'informant des détails du voyage. Avait-elle été bien reçue à Boulogne par le capitaine de la ville? Il s'inquiéta de savoir si les chambellans veillaient aux bagages et recommanda qu'on ne laissât pas choir les coffres. « Car les étoffes se froissent, » expliqua-t-il. « Et j'ai bien vu, dans mon dernier déplacement de Languedoc, combien mes robes s'étaient gâtées. » Était-ce pour cacher une émotion, une gêne, qu'il accordait son attention à cette sorte de souci? Quand on fut assis, Charles le Bel dit «
« Alors, comment se vous va, ma chère sœur ?»«
Ce me va petitement, mon frère, » répondit-elle.
« Quel est l'objet de votre voyage ?»
Isabelle eut une expression de surprise peinée. Son frère n'était-il donc pas au courant ? Robert d'Artois, qui avait suivi ainsi que les principaux seigneurs de l'escorte, adressa à Isabelle un regard qui signifiait « Que vous avais-je dit ?»«
Mon frère, je viens pour m'accorder avec vous, » sur ce traité que nos deux royaumes doivent passer s'ils veulent cesser de se nuire. »
Charles le Bel resta silencieux un instant. Il paraissait réfléchir. En vérité, il ne pensait à rien de précis. Comme avec Mortimer, au cours des audiences qu'il lui avait accordées, comme avec chacun, il posait des questions et ne prêtait pas attention aux réponses.
« Le traité, » finit-il par dire.
« Oui, je suis prêt à recevoir l'hommage de votre époux Édouard. Vous en causerez avec notre oncle Charles, à qui j'ai donné mandat pour ce faire. La mer ne vous a pas incommodé? Savez-vous que je ne suis jamais allé dessus? Que ressent-on sur cette eau mouvante ?»
Il fallut attendre qu'il eût émis encore quelques banalités de cet ordre pour pouvoir lui présenter l'évêque de Norwich, qui devait conduire les négociations, et le lord de Cromwell, qui commandait le détachement d'accompagnement. Il salua chacun avec courtoisie, mais sans visiblement s'intéresser à personne. Charles IV n'était pas beaucoup plus sot sans doute que des milliers d'hommes du même âge qui, en son royaume, herçaient les champs de travers, cassaient les navettes de leur métier à tisser ou débitaient la poix et le suif en se trompant dans leurs comptes de boutique. Le malheur voulut qu'il fût roi, ayant si peu de facultés pour l'être.
« Je viens aussi, mon frère, dit Isabelle, requérir votre aide et mettre ma personne sous votre protection. » Car tous mes biens m'ont été ôtés, et en dernier lieu le comté de Cornouailles inscrit au traité de noces.
Vous direz vos griefs à notre oncle Charles, il est de bon conseil, et j'approuverai, ma sœur, tout ce qu'il décidera pour vous. Je vais vous mener à vos chambres. »
Charles IV laissa l'assemblée pour montrer à sa sœur les appartements où elle allait loger, une suite de 5 pièces avec un escalier indépendant.
« Pour les petites entrées de votre service, »
crut-il bon d'expliquer. Il lui fit remarquer également le mobilier, qui était neuf, les tapis à images sur les murs. Il avait des soucis de bonne ménagère, touchait l'étoffe de la courte pointe, priait sa sœur de ne point hésiter à acquérir autant de braises qu'il lui en faudrait pour bassiner son lit. On ne pouvait pas être plus attentif ni plus affable.
« Pour le logement de votre suite, messire de Mortimer s'en arrangera avec mes chambellans. Je désire que chacun soit bien traité. »
Il avait prononcé le nom de Mortimer sans intention particulière, simplement parce que lorsqu'il s'agissait des affaires anglaises, ce nom revenait souvent devant lui. Il lui paraissait donc normal que Lord Mortimer s'occupât de la maison de la reine d'Angleterre. Il avait certainement oublié que le roi Édouard réclamait sa tête. Il continuait de tourner à travers l'appartement, redressant le pli d'une courtine, vérifiant la fermeture des volets intérieurs, et puis, soudain, s'arrêtant, les mains derrière le dos et le front un peu penché, il dit « Nous n'aurons guère été heureux de nos unions, ma sœur. J'avais cru être mieux servi par Dieu en la personne de ma chère Marie de Luxembourg que je ne l'avais été avec Blanche. » Il eut un bref regard vers Isabelle, où elle lut qu'il lui gardait un ressentiment vague pour avoir fait éclater l'inconduite de sa première épouse. « Et puis la mort m'a emporté Marie, tout en même temps que l'héritier qu'elle me préparait. Et maintenant que l'on m'a fait épouser notre cousine d'Evreux, que vous allez revoir tout à l'heure, c'est une aimable compagne, qui m'aime bien, je crois. Mais nous nous sommes unis en juillet dernier, nous voici en mars, et elle ne donne pas un signe d'être enceinte. Il faudrait que je vous entretienne de choses dont je puisse parler qu'à une sœur. Avec ce mauvais époux qui n'aime pas votre sexe, vous avez eu pourtant 4 enfants. Et moi, avec mes 3 épouses, pourtant j'accomplis, je vous assure, mes devoirs conjugaux bien fréquemment, et j'y prends plaisir. Alors, ma sœur, cette malédiction dont mon peuple dit qu'elle pèse sur notre race et notre maison, n'y croyez-vous pas ?
Isabelle le contemplait avec tristesse. Il se montrait assez émouvant tout à coup par ces doutes qui lui assaillaient l'âme et qui devaient être son constant souci. Mais le plus humble jardinier ne se fut pas exprimé d'autre manière pour gémir ses infortunes ou la stérilité de sa femme. Que désirait-il, ce pauvre roi ? Un héritier au trône ou un enfant au foyer ? Et qu'y avait-il de royal également en cette Jeanne d'Evreux qui vint saluer Isabelle quelques moments plus tard ? Le visage un peu mou, l'expression docile, elle tenait avec humilité sa condition de 3e épouse, qu'on avait prise au plus proche dans la famille, parce qu'il fallait une reine à la France. Elle était triste, sans cesse les pieds sur le visage de son mari, l'obsession qu'elle connaissait bien, et qui devait être le seul sujet de leurs entretiens nocturnes. Le vrai roi, Isabelle, le trouvait en Charles de Valois. Accouru au palais, aussitôt qu'il sut sa nièce arriver, il la serra dans ses bras et la baisa aux joues. Isabelle reconnut aussitôt que le pouvoir était dans ses bras-là et nulle part ailleurs. Le souper fut bref, qui réunit autour des souverains les comtes de Valois, d'Artois et leurs épouses, le comte de Kent, l'évêque de Norwich, Lord Mortimer. Le roi Charles le Bel aimait à se coucher de bonne heure. Tous les Anglais se réunirent ensuite dans l'appartement de la reine Isabelle pour y conférer. Lorsqu'ils se retirèrent, Mortimer se trouva le dernier sur le pas de la porte. Isabelle le retint. « Pour un instant, » dit-elle. Elle avait un message à lui délivrer.